Un bouche d'Imaï sur 93,8.
En République démocratique du Congo, comme ailleurs en Afrique, à chaque fois que des élections sont organisées, les partis politiques de l'opposition appellent très souvent leurs militants ou sympathisants au boycott. Pourquoi et selon quel processus les opposants prennent leurs décisions? Comment expliquer que certains partisans outrepassent leur peur de se faire réprimander ou torturer pour aller malgré tout voter? On va donc suivre ce reportage que nous présente justement à cet effet Julien Niamouyi.
Sénégal, Côte d'Ivoire, République du Congo, mais aussi la RDC, lors des premières élections démocratiques de 2006, après plus de 40 ans d'indépendance, les principaux partis d'opposition ont appelé au boycott, un appel qui a été suivi partiellement dans les cas de la RDC. Pourquoi ces partis politiques appellent très souvent au boycott? Réponse du professeur Mbaïtia Kani, directeur du Centre de recherche des sociétés africaines de l'ISN Boujmaï.
Le plus souvent, quand on commence le processus électoral, les gens ont certaines attentes, certaines aspirations. Et dans ce processus, on met vu le rapport de force. C'est souvent à la force des élections que réalisant la faiblesse de leurs moyens ou souvent que les choses ne vont pas marcher dans le sens de leurs attentes, les responsables des partis politiques d'opposition proposent de se retirer ou commencent à changer le discours. Mais c'est tout simplement un calcul politicien ou un calcul dans le sens de la conquête du pouvoir. Ça n'a pas un aspect tout particulier.
Les organisations des droits de l'homme estiment pour leur part que cet appel au boycott est lié essentiellement aux présomptions de tricherie dont les partis politiques d'opposition brandissent. Emmanuel Kabengele, responsable des questions juridiques de l'ONG des droits de l'homme, CEFOP, Centre d'études et de formation populaire.
Et puis généralement, les partis d'opposition ont certaines présomptions. Et ce sont ces présomptions qui font qu'ils pensent que lorsque l'on organise des élections et lorsque l'on voit l'État suffisamment mobilisé dans l'organisation des élections au travers de son gouvernement central, on s'est dit qu'il y a déjà une tricherie d'avance. Donc ce sont déjà des présomptions. Le fait que ces opposants ont cette présomption-là, ils se disent qu'il y a déjà des tricheries à l'avance. C'est même pour cela qu'ils demandent à leurs partisans de ne pas cautionner parce qu'eux se disent qu'il y a des tricheries à l'avance.
Malgré l'appel au boycott, certains militants de ces partis politiques arrivent tout de même à participer au scrutin. Pourquoi n'ont-ils pas peur de représailles? Emmanuel Kabengele.
Quelque part, des personnes seront élues et quelque part, on se verra en train d'être sujet de ces personnes. Et il y en a qui se disent, au lieu de croiser les bras, faisons quelque chose. Mais un auteur français qui avait dit qui peut et n'empêche, pêche. Donc ça veut dire pour certains, ils se disent que s'ils ne vont pas élus, c'est qu'ils ne feront pas vraiment leur droit de manière effective et qu'ils risquent de permettre que n'importe qui passe en leur lieu place.
En tout état des causes, les analystes estiment que les dirigeants des partis politiques n'expliquent pas clairement les motivations de leurs décisions aux militants.
Les opposants qui décident de quitter la ligne tracée par leurs dirigeants dans les partis politiques d'opposition réalisent finalement qu'il y a manque d'arguments massifs, d'arguments forts pour les convaincre de quitter. Parfois on commence à dire non, vous voyez, il y a de l'argent, il y a ceci. Souvent ce ne sont pas des arguments convaincant. Quand on le met sur la balance avec les attentes par rapport à la normalisation de la situation du pays, par rapport au défi du développement. Mais de l'autre côté, vous avez les partis qui sont en jeu, qui eux aussi multiplient leurs appels et finissent par conquérir le cœur de ceux qui étaient à l'opposition et qui passent de l'autre côté parce que l'argument est valable, mais aussi quelquefois l'argent entre en ligne de compte, la corruption et d'autres facteurs.
Ce qui n'est pas l'avis des activistes des droits de l'homme qui pensent que certains militants font usage de leurs droits civiques. Emmanuel Kabengele.
Les contestations que nous, nous voulons, ce sont les contestations qui nous permettent d'aller de l'avant et non des contestations qui nous permettent de reculer. Je crois que cette action, ça peut nous encourager et ça peut amener à d'autres contestations qui peuvent encore davantage nous permettre de faire un pas de plus vers l'avant. C'est une question essentiellement de droit civil.
Pour contre fait, selon le directeur du Centre de recherche des sociétés africaines, les dirigeants des partis politiques trouvent toujours les stratégies pour se faire élire. Julien Lamoni, Boujimaï, Radio Okapi.
Merci beaucoup, Julien Lamoni, pour ce reportage. Nous donnons la parole à notre invité, qui est le professeur Espérance Baedila, docteur en communication. Vous avez suivi ce reportage. Premièrement, votre commentaire.
Je suis en train de voir, après avoir suivi ce reportage, comment est-ce que les gens réagissent par rapport aux ordres qui leur sont donnés ou par rapport aux problèmes qui se posent à eux dans la société. Nous venons de voir que les gens, effectivement, réagissent différemment selon, en fait, les influences des leaders ou d'autres personnes qui ont une certaine position dans la société, selon les influences que les gens subissent dans la société. Et les gens, en fait, se réfèrent à tout cela, à tous ces problèmes, à tous ces facteurs pour réagir dans la vie.
Vous parlez de l'influence des leaders, alors agissons-nous différemment en groupe et individuellement?
Naturellement, nous agissons différemment, mais également nous agissons différemment en groupe ou individuellement. Je dis que c'est de manière naturelle. Il y a en fait, c'est que je peux dire à propos de ça, il y a des facteurs en fait qui font que les gens puissent agir différemment ou naturellement. Il y a ce que je peux appeler la cohésion du groupe. Il y a également la vision en fait que le groupe partage. Il y a les divergences des intérêts, des points de vue, des problèmes. Cela fait que les gens n'agissent pas toujours de la même manière. Il arrive que d'autres personnes soient plus influentes que d'autres dans le groupe par rapport, par exemple, à vos savoirs, la compétence. Quand quelqu'un connaît, il peut facilement influencer d'autres. Quand quelqu'un a de l'argent, il peut, là je parle de pouvoir, du pouvoir financier, il peut également influencer d'autres personnes. Il y a l'âge également qui est un facteur influent, mais il y a également les relations, les réseaux des relations que les gens ont dans la société qui peuvent être des facteurs qui font que les gens réagissent différemment dans
l'argent. Qui arrive facilement à influencer les gens au sein du groupe.
Au sein du groupe.
Mais pourquoi réfléchissons-nous et critiquons-nous moins lorsque nous sommes en groupe?
Là, je voudrais quand même faire la part des choses. Ça dépend. Ça dépend de quel groupe. Quand vous parlez du groupe, il faut faire la différence avec la foule. Parce que la foule ne réfléchit pas, en fait. Mais le groupe, si on doit parler d'un groupe qui est structuré, le groupe réfléchit. Le groupe a le temps de faire des analyses critiques. Mais si je dois répondre à votre question totalement, je dirais que c'est une question de rapport de force, un peu comme dans la première question. Et la force, ce rapport de force peut être matériel, il peut être intellectuel, il peut être moral. Donc ça dépend en fait de tous ces facteurs-là qui font que les gens sont influençables par les autres membres.
Et justement, professeur, on remarque que c'est beaucoup plus facile de commettre des actes de violence en groupe que individuellement.
Là, c'est également facile. On commet des actes de violence facilement quand on est en groupe, parce que vous savez, le groupe ou la foule profite en fait de ce que je peux appeler l'anonymat. On ne sait pas qui a fait quoi. Mais quand on est individuellement, on est identifié facilement. On a peur d'être accusé, d'être indexé, d'être responsabilisé par ce qui vient d'être fait. Alors que quand on est en groupe, on est dans la foule, on commet des actes de violence facilement parce que c'est le groupe, on ne sait pas qui exactement.
On ne pourra pas vous identifier.
Exactement.
Alors nous invitons tous ceux qui nous suivent à travers le pays à réagir déjà, hein, poser vos questions au 081 070 2050. Nous allons évoluer sur nos questions. Dans le reportage que nous avons suivi, il y a des sympathisants qui ont respecté l'ordre du leader, d'autres ne l'ont pas respecté. Alors quels sont les facteurs qui expliquent ces différentes attitudes?
Il y a des facteurs qui peuvent être psychologiques, mais d'autres sont des facteurs qui sont politiques ou structurels. Par exemple, quand vous donnez un ordre dans un groupe et que les gens suivent et d'autres ne suivent pas, en fait, il y a toujours dans le groupe ce qu'on appelle, moi j'appelle un noyau. Des gens, en fait, qui ont un certain nombre d'avantages par rapport à d'autres, par rapport à tous ces facteurs que nous venons de citer et qui influencent également le groupe par rapport aux chefs et à d'autres, en fait, qui influencent le groupe. Et les raisons d'ordre psychologique peuvent être le fait qu'ils peuvent se dire, par exemple, si la personne dans le groupe conteste le chef, c'est qu'il y a un problème, le chef, on ne le conteste pas. Si personne d'autre ne s'oppose, alors que cela peut amener à penser que ce n'est pas la chose juste à faire, et en général, on se dirige vers les membres de son propre groupe pour obtenir des informations et savoir comment se comporter dans le cas de crise. Mmh. En fait, ça, c'est, j'ai parlé de cohésion de groupe, mais pour des raisons d'ordre structurel ou politique, par exemple, vous savez, ils peuvent avoir peur de s'opposer, car ils n'ont peut-être pas reçu, ils ont reçu des menaces. Par exemple, avant, quand on est menacé, on a peur, en fait, d'essayer encore une fois. On a peur des tortures, on a peur d'exclusion du groupe, parce que quand on appartient à un groupe, c'est un groupe d'appartenance dont la personne en fait s'identifie au groupe. Quand on est exclu du groupe, cela fait mal, la personne se sent sanctionnée.
Donc il faut suivre les idées du groupe.
Suivre, mais il arrive que dans le groupe, certaines personnes se différencient d'autres parce qu'ils ont un esprit critique et ils arrivent à penser que non, l'idée que le chef ou le leader avance n'est pas une bonne idée. Et là, les gens peuvent facilement bien faire, par exemple, en identifiant dans le groupe d'autres personnes avec qui ils peuvent parler pour essayer de faire passer l'idée contraire à celui du chef, par exemple, ou du leader. Ils peuvent identifier des personnes et créer un autre petit groupe au sein du grand groupe qui pourra, par exemple, dans la rencontre, essayer d'influencer pour que l'on ne soit pas seul à avoir cette idée contraire, en fait, à l'idée du chef.
Alors, en d'autres mots, parce que vous l'avez dit vous-même, parfois par peur d'être considéré comme déloyal ou collaborateur du groupe ennemi, ou de se faire battre, un individu peut exprimer des difficultés à s'opposer aux idées de son groupe d'appartenance. Alors comment des gens peuvent-ils s'opposer sans pour autant se mettre en danger?
C'est par l'esprit critique, je dirais. Au sein du groupe, il y a toujours des gens qui réfléchissent également. Par l'esprit critique, quand on ne fait pas une analyse critique, quand on ne sait pas regarder les choses en face et analyser, là c'est compliqué.
Mais on peut vous dire, parce que vous avez un esprit critique, on peut croire que vous êtes proche d'un autre groupe ennemi.
Pas toujours. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir des stratégies en fait. Je vous donne un exemple qui vient de se faire récemment. En fait, au sein du MLC, il y a maintenant un courant dit des réformateurs au sein du MLC. Et au sein de ce groupe dit des réformateurs, en fait, c'est parti d'une réflexion. Les gens ont pensé par rapport au contexte, en fait, là je fais une analyse, par rapport au contexte actuel politique, par rapport aux enjeux, par rapport à la réalité sur le terrain, les idées doivent évoluer. Et au sein du groupe, on a trouvé des personnes qui ont en fait eu un esprit critique et qui ont pensé qu'il fallait peut-être maintenant danser sur un autre.
Il y a eu plusieurs personnes au sein du groupe, ce n'est pas un individu.
Mais l'idée part toujours d'une personne et qui arrive à influencer d'autres et voilà comment le changement peut arriver par rapport aux idées violentes ou qu'est-ce que vous voulez.
Alors comment des opposants en chef et à son idéologie destructrice peuvent-ils encourager d'autres membres du groupe à juger de manière indépendante? Pourquoi cela est-il aussi important?
C'est important parce que en fait, le groupe se construit pour qu'il y ait un changement social dans la société. Alors qu'il faut qu'au sein du groupe, qu'il y ait des gens, comme je l'ai dit, il y a certes un leader, mais il y a d'autres personnes qui ont également de l'influence dans le groupe. Et ces personnes-là peuvent, par l'esprit critique, par l'analyse critique, de faire en sorte que d'autres personnes adhèrent à leurs idées. Et la meilleure manière de le faire, c'est de parler parfois individuellement aux gens pour faire comprendre à ces personnes au sein du groupe, qui sont également influents. On a parlé de plusieurs facteurs d'influence au sein des groupes, qui sont également influents, d'adhérer en fait à l'idée du changement. Et c'est seulement quand on constitue un petit groupe au sein du groupe, au sein du grand groupe, qu'on peut permettre qu'il y ait ce genre de changement.
Oui, bien, c'est la dissidence.
Non, pas du tout. C'est pas la dissidence. Parce qu'on
est en
croire.
On peut
croire que c'est la dissidence.
Non. S'il faut qu'il y ait changement au sein du groupe, il faut prendre ce risque-là. Mais il faut savoir comment le faire. C'est pourquoi j'ai dit.
Il faut avoir une stratégie.
Il faut des stratégies. C'est vrai qu'on a un leader dans le groupe, mais il y a d'autres personnes qui sont également influentes au sein du même groupe par rapport à ce que nous avions parlé des rapports de force. On a le matériel, le savoir, l'argent, l'âge.
Non, mais parce qu'on appartient à un groupe, c'est qu'on a adhéré à l'idéologie du groupe. Et pourquoi par la suite?
Mais dans le groupe, il y a des individus. Et ce sont des individus qui constituent le groupe, en fait. Et chaque individu a ses intérêts. Si on vous demandait de donner, par exemple, une personne pour qu'il soit ministre dans le gouvernement, vous êtes au sein du groupe. Mais dans le groupe, des gens auront des intérêts également divergents au sein du même groupe, parce que ce sera une seule personne qui doit aller. Donc vous voyez, au sein d'un même groupe, il y a également plusieurs forces qui peuvent intervenir. Donc il y a plusieurs influences au sein d'un même groupe, et ces personnes-là qui sont également influentes au sein du groupe peuvent, s'ils ont une idée juste, comme l'idée que je viens de donner du MSC, peuvent faire en sorte que...
Comment reconnaître une idée juste? Parce que c'est là le problème également. On peut se croire être un dieu, mais on ne l'est pas. Hein. C'est, en voulant faire l'ange, parfois on fait la bête.
Par l'esprit critique et par les analyses que les gens font au sein du jeu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre le groupe et la foule. La foule ne réfléchit pas, mais un groupe peut avoir des comportements de la foule. Au Parlement, par exemple, le Parlement, c'est un groupe structuré, bien organisé, mais il peut arriver des moments où le Parlement a le comportement de la foule dans la salle et ils ont un responsable qui va essayer de remettre de l'ordre, en fait. Donc, au sein d'un même groupe, des gens réfléchissent et il peut arriver que quelqu'un pense le contraire, qu'il a une idée critique, qu'il fait des analyses critiques et qu'il peut, à partir de plusieurs stratégies, faire en sorte que quelques-uns dans le groupe partagent la même idée et qu'ils vont finalement influencer.
Avant de suivre la conclusion que va nous présenter Marcel Concou, madame, comment des individus peuvent-ils garder leur indépendance et ne pas se laisser manipuler par les membres de leur groupe d'appartenance ou leur leader? C'est bien de donner des exemples concrets.
Oui, pour que les gens essaient de garder leur esprit d'indépendance, il faut d'abord, j'avais dit, dans le groupe, mettre au sein d'un même groupe que l'esprit du débat soit là. Quand les gens ont l'habitude de discuter, on donne la parole, la libre expression au sein du groupe.
C'est important.
C'est très important, la libre expression au sein du groupe, l'esprit du débat, l'esprit critique. Quand on a une idée, il faut que cela soit partagé, que les avis, qu'on prenne les avis, les avantages, les désavantages, qu'on essaie de mettre, comme on dit, le problème sur la table et que tout le monde donne son avis par rapport au problème et on va dégager en fait les tendances qui feront qu'on arrive à qu'on puisse arriver à une situation de non-violence qui mettra tout le monde d'accord et qui fera avancer les choses.
Donc c'est possible de garder son indépendance.
C'est possible de garder son indépendance
et résister
à la manipulation au sein du groupe.
Madame Baïdila, on va suivre donc la conclusion que nous présente à cet effet Marcel Concou.
Merci.
Et la détérioration économique soudaine, des leaders développent et exhortent des croyances qui nous incitent à accuser d'autres groupes d'être à l'origine des échecs de la société. Par exemple, à l'heure actuelle, au Nord Kivu, des groupes s'en accusent de l'insécurité. Mais en réalité, cette insécurité qui affecte toute la population est causée par de nombreux phénomènes. Le fait de blâmer les membres de l'autre groupe et de les considérer comme responsables des problèmes diminue la nécessité pour le leader d'assumer ses responsabilités devant nous pour les problèmes et les échecs de la société. Quant à nous, qui sommes adeptes de ces leaders, nous avons également une impression de soulagement lorsque nos leaders nous disent que les problèmes ne sont causés ni par nous, ni par eux, mais par les autres groupes. Ces discours nous soulagent car nous croyons que des solutions simples à nos problèmes se profilent. C'est une des raisons qui nous pousse à adhérer aux idéologies de ces leaders. Certains d'entre nous observent et écoutent passivement ces discours. Ils ont souvent peur de lever la voix, de peur d'être arrêtés ou torturés. Ce silence que l'on peut comprendre nous pousse à croire que ces idéologies sont morales et acceptables. Or, il fait partie de notre devoir de citoyen congolais d'agir individuellement pour contredire l'idéologie de l'exclusion de certains groupes, sans quoi ces groupes useront à leur tour la violence pour se faire entendre. Des actions de contestation peuvent être prises individuellement et se transformer en initiatives nationales. Rappelons-nous aux États-Unis, Martin Luther King a commencé par prôner seule la lutte pacifique pour la reconnaissance des droits des Noirs américains. Avec le temps, il s'est fait des milliers d'alliés qui, à leur tour, ont réussi à convaincre d'autres alliés. Tous ensemble, ils se sont fait entendre par ceux qui faisaient la promotion de l'apartheid. Ils ont eu gain de cause et ont permis à des milliers de Noirs américains de faire valoir leurs droits au même titre que les autres citoyens américains.
Voilà, donc on va donc s'arrêter là avec vous, professeur Espérance Baïdila. Dans nos groupes, on a souvent peur d'élever la voix, hein, par crainte d'être torturé ou encore arrêté, mais il faut parfois oser, hein, quand on a des idées claires.
Il faut oser quand on a des idées claires et il faut absolument avoir des stratégies pour faire accepter son idée par d'autres. Et ainsi de suite, tout le groupe pourra accéder à l'idée là. Mais l'idée juste, il faut bien le garder. Il faut avoir l'esprit critique. Il faut montrer le pour et le contre, les avantages et les désavantages d'une situation. J'ai dit, quand il y a débat, il y a réflexion, il y a esprit critique, on peut arriver à bout de ce que nous sommes en train de rechercher.
On en reparlera. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous remercions également tous ceux qui nous ont suivis. J'ai un longuement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
On remercie tous ceux-là qui nous ont accompagnés depuis le matin, depuis 9h. Nous prenons rendez-vous avec nos auditeurs pour demain, à la même heure.
À la mise en onde, il y avait Alain Goy, à la réalisation Nathalie Moutiba. Cette émission a été coordonnée par Marcel Ngombo. Merci encore et à demain. Thank you.